Quand les policiers pénètrent dans cet appartement de la commune genevoise d'Aunay, ils ne voient d'abord rien de suspect, rien à signaler. Sauf que le sac à main de la disparue est là, planqué sous un duvet. Sauf que le mari vient de se vanter publiquement de l'avoir tué avant de disparaître dans la nature. Les policiers s'obstinent, fouillent, analysent et découvrent finalement des traces de sang et de chair humaine dans la salle de bain. Puis dans les containers à ordures devant l'immeuble. Puis dans la cave. Les médecins légistes finiront par identifier 538 morceaux du même corps humain.
Crime suisse.
Bonjour, je suis Antoine Droux et dans cet épisode de Crime suisse, je vous raconte l'horreur. Un crime particulièrement sordide commis dans le canton de Genève au milieu des années 90. Soyez avertis, cet épisode est très sanglant. Je vous recommande de ne pas l'écouter si vous êtes sensible et surtout d'éloigner les oreilles délicates parce que tout est vrai. Tout est arrivé ici, tout près de chez vous, là, au coin de la rue, peut-être à l'étage du dessus, ou dans l'immeuble d'en face. Notez aussi que nous utiliserons des prénoms fictifs, eu égard aux survivants. Au-delà de la violence, de la mort et du sang, les histoires de crimes suisses nous tendent un miroir. Et parfois, le reflet est hideux, comme ici. Crime suisse, épisode 8, Châtier au-delà de la mort. Il y a de l'orage en ce soir du 14 juillet 1994 à Aunay, ville de l'agglomération genevoise, coincée entre le Rhône au nord et la rivière l'Aire au sud. La pluie rafraîchit un peu l'atmosphère. Voilà plusieurs jours qu'il fait plus de 30 degrés en ville, sans beaucoup de vent. C'est pénible. Dans un café, Selim boit un verre. Petites lunettes, élégant, il a le visage ténébreux d'Al Pacino dans Scarface, lira-t-on des années plus tard dans la presse romande. Ce membre du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, a quitté la Turquie dans les années 80 pour demander l'asile en Suisse. Selim a 33 ans. Il est marié à Anna, 29 ans. C'est une de ses cousines, née dans le même petit village que lui. Leur mariage a été arrangé, forcé. Selim et Anna ont deux enfants, qui ont 6 et 8 ans. Mais les enfants de Selim n'ont pas beaucoup vécu avec leur père. Il est sorti de prison il y a environ 2 mois, en mai 1994. Il a purgé un peu plus de la moitié de sa peine de 8 ans de détention pour trafic de drogue, avant de bénéficier d'une liberté conditionnelle. Les procédures de demande d'asile du couple sont remises en question à cause de cette condamnation. D'ailleurs, Selim devrait bientôt quitter la Suisse. En tout cas, quand la mesure d'expulsion prise à la suite de son jugement sera notifiée. Le retour de Selim dans son ménage se passe mal. Il accuse son épouse d'être devenue une mauvaise femme pendant qu'il était en prison. Il est violent, il la frappe. Il menace aussi d'enlever les enfants si elle le quitte. C'est pour ça qu'Anna a envoyé les petits en colonie de vacances en cet été 1994. Oui, Anna a peur. Elle a signé toute seule un contrat de bail pour un nouvel appartement dans un bloc de l'avenue du Gros Chêne. Toute la famille y habite, y compris son mari. Mais lui, il n'a pas de clé. Anna ne lui en a pas donné. Suivant les conseils d'une avocate, Anna a aussi demandé à son frère, Youssouf, d'emménager dans ce même appartement pour se rassurer. Au moins jusqu'au divorce. Parce que oui, Anna a entamé des démarches en vue d'un divorce. Elle veut se séparer à l'amiable, quitter son mari. Elle a d'ailleurs un filet de sécurité pour se lancer. 83 000 francs sur un compte à son nom dans une banque d'Istanbul. L'argent a beau être, sans doute, issu des trafics de drogue de son mari. Elle seule y a accès et elle veut le garder. Le divorce, elle y pense ? Certes. Elle entame les démarches, certes, mais elle n'ose pas en parler à son mari, pas encore. Ce sera un affront total pour lui. Une insulte si grave qu'il voudra lui faire payer. Peut-être même dans le cadre d'un crime d'honneur.
C'est dans ce cimetière que repose Kader. Elle avait 18 ans. Sur sa tombe, il est écrit que c'est un crime d'honneur qui l'a menée ici.
On est en Turquie, dans les années 2000.
L'histoire de Kader n'est pas une exception. Dans cette association, on essaie de venir en aide aux femmes ainsi menacées. Ici, en moyenne, on reçoit 5 coups de téléphone par jour.
En 2003, 23 femmes se sont adressées à nous pour des questions de crimes d'honneur. Avec 2004, ça fait en tout 54 femmes qui nous ont fait des demandes.
Pour 54 femmes sauvées, combien comme Kader sont mortes tuées par un membre de leur famille sans être pour autant réhabilitées par la justice ? Car jusqu'à présent, le crime d'honneur bénéficie d'une réduction particulière.
Si Anna ne dit rien à son mari pour le divorce, Selim finit par tout apprendre, au détour d'un coup de fil avec son avocat. Quand l'homme de loi évoque cette procédure de séparation avec son client, celui-ci tombe des nues et assure qu'il doit s'agir d'une erreur. Ce jeudi soir du 14 juillet 1994, Youssouf, le frère d'Anna, rejoint Selim au café. Ensuite, les deux hommes rentrent à l'appartement, mais ils tombent sur une porte fermée à clé. Il n'y a personne. Anna a peut-être profité de l'absence des enfants pour passer la soirée avec des amis. Les deux hommes quittent les lieux et vont dormir chez des compatriotes. À cet instant, derrière la porte, dans l'appartement silencieux, le cadavre de la jeune femme repose déjà sans doute sur un lit. Le lendemain matin, les deux hommes se séparent. Et quand Youssouf se rend à nouveau à l'appartement de sa sœur un peu plus tard dans la journée, il tombe à nouveau sur une porte fermée à clé. Personne pour lui répondre, personne pour lui ouvrir. Youssouf redescend dans la rue. Dans le trafic, il repère une Opel rouge. À l'intérieur, il y a Selim, qui lui lance en passant les clés de l'appartement. Il lui crie « J'ai tué ta sœur !» Il se vante également du crime à ses parents qui se trouvent en Turquie et à qui il téléphone. Selim s'enfuit ensuite à La Chaux-de-Fonds, chez un ami qu'il a connu au milieu des années 80 lors de manifestations kurdes en Suisse. À Honay, Youssouf alerte la police. Ce sont d'abord des gendarmes qui pénètrent dans l'appartement, puis des inspecteurs. Les forces de l'ordre constatent alors qu'il n'y a rien à constater. Pas de traces de violence apparente. Aucune raison de s'inquiéter a priori. Mais la découverte du sac à main de la disparue, caché sous un duvet, les antécédents violents du mari et les mots lancés à son beau-frère dans la rue, tout ça pousse les policiers à ne pas lâcher l'affaire. Le samedi, c'est donc le service d'identification de la police judiciaire qui se rend sur place. Méticuleux, les experts procèdent à des analyses chimiques. Ils découvrent d'infimes taches de sang dans le salon, puis dans la chambre, puis dans la salle de bain. L'horreur commence quand un lambeau de chair humaine est retiré du siphon des toilettes. « Samedi 16 juillet 1994. Il fait chaud à Genève, plus de 30 degrés. Dans l'immeuble Donnet, la police a mobilisé des chiens pour une fouille complète des lieux. Les poubelles d'une dizaine de containers sont vérifiées. Les agents y trouvent des petits morceaux de chair, des os brisés, le tout éparpillé au milieu des ordures. Comme il est rapidement établi qu'il s'agit de morceaux de cadavres humains, la totalité des sacs est fouillée. On y trouve encore d'autres restes, tout comme à l'usine d'incinération des Cheneviers, à 8 km de là. Découverte macabre aussi dans une des caves de l'immeuble. Les policiers sont guidés par une odeur désagréable et finissent par trouver des sacs en plastique. Des sacs en plastique qui cachent à peine une tête humaine en décomposition, scalpée, défigurée, méconnaissable. Un à un, les restes humains sont prélevés. Des confettis de cadavres qui sont confiés aux médecins légistes. Ils n'ont bien sûr jamais vu ça, malgré la dureté de leur métier. Un métier éprouvant que quelques-uns décrivent dans cette ancienne émission de RTS Espace 2 à 1000 lieues des imaginaires médiatiques.
Dans les romans policiers, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un commissaire qui arrive, qui relève un peu le drap, on voit un pied qui dépasse avec une petite étiquette, et puis c'est tout. On ne voit pas réellement, le mort. Et pourtant, au cinéma, aujourd'hui, on voit l'amour. On voit le sexe des hommes, des femmes, on voit tout, mais pas ça.
Avant d'avoir vu un cadavre, moi j'avais l'image du cadavre blanc avec le regard, l'expression paisible. Et quand j'ai ouvert cette porte et que j'ai vu tous les corps alignés les uns après les autres, avec la tête tournée en arrière, avec tous les traits tirés, la bouche ouverte, avec une dent qui restait, avec les yeux enfoncés, parfois même plus d'œil du tout, ça c'est ce qui est impressionnant, c'est de les voir vraiment laids, c'est des cadavres qui sont pas blancs, ils sont rouges, ils sont abominables, et c'est ça qui est dur. Si c'était des cadavres blancs et beaux, je suis sûre que l'approche à la mort serait beaucoup plus facile.
Le cas est si exceptionnel que les légistes de l'Institut de médecine légale de l'Université de Genève le détailleront dans un article scientifique. Il paraît fin 1996, en Allemagne, dans la revue Archiv für Kriminologie, le numéro 198. L'article est intitulé « Un cas inhabituel de démembrement de cadavres ». Les scientifiques commencent par souligner que ces cas de démembrement sont tout à fait rares. Par exemple, dans une ville comme Hambourg, il y en a seulement un pour 500 autopsies judiciaires. En Suisse, c'est simple, aucun cas n'a été identifié en 35 ans. À la connaissance de l'Institut de Genève. Les cas de démembrement les plus connus sont liés à un tueur en série américain du Wisconsin, précisent les légistes dans l'article. Il s'appelle Jeffrey Dahmer et a été surnommé « le monstre de Milwaukee ». L'homme a assassiné 17 jeunes gays entre 1978 et 1991. Pour l'une des victimes, 262 morceaux de corps ont été comptés, loin du cas genevois. À l'époque, l'Amérique est horrifiée en découvrant l'affaire aux nouvelles.
Very gruesome discovery in Milwaukee overnight.
Milwaukee police find a horrifying scene inside an apartment building.
Police got here in the middle of the night and what they found was an apartment full of pieces of people.
Milwaukee police found body parts in a north side.
So we thought it was a Steve Freezer. And now we found out.
Une histoire macabre, une scène d'horreur, une nouvelle épouvantable, un appartement plein de morceaux de gens. Une fabrique de la mort, une cuve d'acide, un tueur en série. Bref, une abjection. Concernant le cas Genevois, les détails de l'article scientifique publié dans Archiv für Kriminologie font froid dans le dos. 538 morceaux de cadavres récupérés, dont 133 fragments osseux. La sixième vertèbre thoracique présente une incision nette et rectiligne. La troisième et la huitième côte gauche sont cassées. Le sternum est coupé net en son milieu. Les bras présentent des fractures de l'humérus, du radius et de la région du coude. Col du fémur, tibia, péroné, tout est fracturé. Des orteils et cinq dents manquent, notamment. Quant aux mains, tout ce que les policiers ont retrouvé, ce sont deux doigts et quelques os, des métacarpes. À côté de ces 133 bouts d'os, les médecins légistes ont aussi étiqueté 405 morceaux de peau, de tissu adipeux et de tissu musculaire. Leur taille varie entre 2 et 15 cm. Si la tête est scalpée et décharnée, le crâne est intact. Mais à part le cerveau et un morceau d'utérus, les organes sont introuvables. Il s'agit donc d'une femme. Les analyses chimiques et toxicologiques sont négatives. Pas de traces d'alcool. Pas de traces de saignements vitaux dans les tissus récupérés. Il est impossible d'établir avec certitude les causes de la mort. Peut-être que la victime a été mortellement blessée au couteau. Elle a peut-être été noyée dans la baignoire, là où la police a retrouvé des taches de sang. Ou électrocutée, ou étranglée. On ne sait pas. On mesure les os. La victime faisait environ 1,50 m. On analyse la structure osseuse, l'état des dents, des articulations. Elle avait entre 25 et 30 ans. Le groupe sanguin et le dossier dentaire correspondent à celui de la disparue. Il n'y a pas de doute possible sur l'identité du cadavre. C'est celui d'Anna. Dans le numéro des 3 et 4 février 2007 de la Tribune de Genève, l'un des légistes qui ont signé l'article scientifique publié en Allemagne 10 ans plus tôt revient sur cette autopsie hors du commun dans un article signé Thierry Mertena. Le médecin dit que le dépeceur a passé entre 4 et 8 heures à découper le corps avec un couteau et une scie. Il dit que 2 semaines de travail ont été nécessaires pour reconstituer le cadavre sur la table d'autopsie, avec toute une équipe de légistes mobilisée pour l'occasion. L'employé des pompes funèbres, chargé de la levée de corps, est aussi cité dans cet article de presse. Il utilise l'humour pour exorciser l'horreur absolue et se souvient que ce dossier lui a valu de ne plus pouvoir manger de ragoût pendant 3 mois. Selim, lui, court toujours. Il est aperçu à Bâle, à la fin de l'année 1994. Puis, plus rien. Au fil des mois, la police cantonale genevoise continue d'explorer toutes les pistes. Elle remue ciel et terre pour faire avancer son enquête, y compris en participant en juillet 1995 à l'émission de télévision Aktenzeichen XY ungelöst. Une émission coproduite à l'époque par les chaînes germanophones ORF en Autriche, ZDF en Allemagne et SRF en Suisse alémanique. Le but de l'émission, résoudre des crimes.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
L'avis lancé est le suivant. On recherche Selim S., fortement soupçonné d'avoir tué sa femme. Il pourrait se trouver en Allemagne. Le Turc, qui vivait depuis 12 ans en Suisse et habitait à Honnay, près de Genève, y aurait assassiné sa femme avant de démembrer son corps. Depuis son crime, il est en fuite et pourrait avoir trouvé refuge chez des compatriotes. Récompense, 5000 francs. Mais ce passage TV ne mène à rien. Toujours aucune trace du meurtrier présumé. Et pour cause, voilà 2 mois que Selim a quitté le vieux continent. Il a atterri à Montréal le 16 mai 1995, après une cavale européenne de 10 mois. Pourquoi le Canada ? Bien peut-être parce qu'à l'époque, les autorités québécoises encourageaient les étrangers à venir tout recommencer dans leur pays, présenté comme une terre d'opportunité. Des soirées étaient même organisées en Suisse romande durant cette période pour vanter les charmes de cette belle province en manque de bras.
Les berges du Saint-Laurent ont attiré une petite centaine de personnes, une foule avec du rêve plein les yeux et une bonne dose de curiosité.
Par curiosité d'abord et puis après par envie, ça c'est clair. Par envie de voir autre chose, de recommencer ailleurs, de découvrir un autre monde à quelque part.
Un autre monde, mais pas à la portée de tous. Le service d'immigration québécois pose des conditions. Si possible, avoir moins de 35 ans et posséder une bonne expérience professionnelle. Si le Québec veut attirer les immigrants, c'est pour la plus simple des raisons.
On veut avoir des gens parce qu'on veut maintenir le Québec démographiquement. Le Québec a déjà été dans le livre, si vous voulez, des records Guinness là, pour les grosses familles. Là, on est à veille d'y être à cause des petites familles. Il n'y a plus d'enfants. Les Québécois, ils n'ont plus la tête ou le goût à ça. Alors nous, on s'est dit que peut-être en allant chercher des gens à l'extérieur, ça allait un peu nous aider.
Le service d'immigration a joué carte sur table. Le Québec, c'est beau, il y fait bon vivre, mais ce n'est pas l'Eldorado. Y partir, c'est se recycler.
Quand Selim atterrit à Montréal en mai 1995, il a un passeport français pour le voyage sur lui et un passeport turc dans ses bagages pour déposer une demande d'asile. Ce qu'il fait donc à l'aéroport de Mirabel, sous un faux nom. Il se rend à l'Association culturelle des Kurdes de Montréal, où il demande un interprète et un avocat. Dans le magazine L'Illustré du 30 avril 1997, le président de l'association s'en souvient comme d'un homme qui paraissait très sociable et qui affirmait avoir été torturé à plusieurs reprises. Selim vit de l'aide sociale. Il ne parle pas de son passé ni de sa famille. Il affirme haut et fort qu'il n'a jamais été marié et qu'il n'est pas un séducteur. En février 1996, Selim se recycle au Canada. Là, il aurait fréquenté une certaine Micheline, une des employées du restaurant de Saint-Hyacinthe où il a trouvé un emploi de cuisinier. Mais le patron accuse Micheline de voler dans la caisse. Les deux employés sont licenciés sur le champ. Elle niera plus tard avoir eu une relation avec le Kurde. 10 mois passent. Selim est toujours cuisinier. Il a retrouvé un emploi, cette fois dans une pizzeria de Montréal. Il vit dans un petit une pièce, raconte l'illustré. Un logement minuscule, mais très bien rangé, tip-top en ordre. L'objectif de Selim désormais, obtenir définitivement le statut de réfugié. Un statut qui lui permettrait de se mettre à son compte et d'ouvrir un kebab, son rêve. Pour cela, il doit mettre à jour sa demande. Et pour régulariser sa situation, il doit se rendre au bureau de l'immigration du Canada. Sur place, les fonctionnaires lui posent des questions et remplissent des formulaires avec lui. Ah oui, ils lui prennent aussi ses empreintes digitales. Simple formalité, vous comprenez ? Le vendredi 28 mars 1997, des enquêteurs de la section Immigration et Passeport de la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, se présentent au domicile de Selim. L'homme est confiant. Enfin, on va lui remettre son permis de réfugié politique. Il suit docilement les policiers. Mais une fois attablé dans les locaux des forces de l'ordre, Selim comprend qu'il est pris au piège. Ses empreintes digitales l'ont trahi, après avoir été entré dans la base de données d'Interpol, l'organisation internationale de police criminelle, qui permet l'échange d'informations en lien avec des crimes entre les 196 pays membres, dont la Suisse et le Canada. Selim est livide, ses mains tremblent. Il nie d'abord être celui que la police recherche, avant de reconnaître qu'il est bien leur homme, comme soulagé, témoignera plus tard un policier. Concernant sa femme, il concède l'avoir tuée. Mais c'était un accident, dit-il au policier canadien. Il était hors de lui. Il était un autre. Il raconte aussi sa cavale qui l'a conduit en France, en Allemagne, en Italie et même, dit-il, en Turquie. L'interrogatoire est filmé. Malgré ses aveux, Selim s'oppose à son extradition vers la Suisse, sans succès. Il est de retour à Genève le 9 octobre 1997, plus de 3 ans après le dépeçage de sa femme, Anna. Pendant le voyage en avion, un inspecteur lui demande s'il a pris du plaisir à découper son épouse. Selim ne répond pas, il se contente de sourire. À son arrivée en Suisse, le juge l'inculpe d'assassinat et d'atteinte à la paix des morts. Devant la chambre d'accusation, Selim fait machine arrière. Nous sommes le 17 octobre 1997 et cette fois, il conteste tout. Puis du côté des médias, c'est silence radio pendant une année. Plus de traces visibles de l'affaire dans les archives. C'est que le juge veut prendre le temps d'enquêter sur cette affaire particulièrement sordide. Et puis il y a aussi les enfants, désormais âgés de 9 et 11 ans. Il faut les épargner, au mieux. Une année plus tard, le 6 octobre 1998, Selim comparaît à nouveau devant la chambre d'accusation genevoise. Il admet à nouveau qu'il a tué son épouse, mais il assure qu'il ne l'a pas fait exprès. Le ministère public mise sur des aveux complets prochainement. Mais encore une fois, l'affaire disparaît des médias pendant plusieurs mois. En janvier 1999, c'est la douche froide pour l'accusation. L'inculpé nie toute participation aux faits qui lui sont reprochés. Il affirme être soudainement totalement étranger à ce crime. Pourquoi un tel revirement ? Selon le juge d'instruction cité dans la presse, c'est peut-être à cause de l'expertise psychiatrique. Elle est défavorable à Selim, qui a été reconnu entièrement responsable de ses actes par les experts. Impossible de continuer à plaider le dédoublement de personnalité et encore moins de simuler la folie. L'avocat de Selim, en tout cas, n'y croit pas. Pour lui, quelqu'un de sain d'esprit ne peut pas prendre entre 4 et 8 heures de son temps pour découper un cadavre en 538 morceaux. Ce n'est pas possible. S'il l'a fait, c'est que quelque chose ne va pas chez lui, dit le défenseur. Il demande une contre-expertise, refusée par le juge d'instruction. Selim retourne en prison et continue d'écrire des poèmes en attendant son procès. Le procès de Selim s'ouvre devant la cour d'assises le 2 juin 1999. Voilà bientôt 5 ans qu'Anna est morte. Impassible, Selim est plutôt élégant au tribunal, selon les comptes rendus des journaux. Il porte un costume sombre, ses lunettes toutes fines, et il ne bronche pas. Pendant l'instruction, l'accusé a varié dans ses versions. La dernière en date, c'est un accès de jalousie à cause d'un adultère commis par sa femme, suivi d'une dispute qui aurait mal tourné. C'est qu'elle était en train de s'émanciper, vous comprenez ? Elle voulait même divorcer. Les inspecteurs genevois, dépêchés dans le village d'origine du couple en Turquie, ont constaté sur place qu'une bonne partie de la population approuvait le meurtre d'Anna, cette femme de mauvaise vie. Au cimetière, sa tombe a été profanée. Harcelé, sa famille a dû quitter la région. Confronté à la cour, Selim reconnaît tout de même, du bout des lèvres, être responsable de la mort de sa femme. Mais il réfute catégoriquement avoir participé au carnage qui a suivi. Il raconte sa version. Après avoir tué accidentellement sa femme en la poussant dans les escaliers, il a déposé son corps sans vie sur le lit. Puis il est descendu au bistrot où il a rencontré un certain Mohamed, un Algérien, qui se serait proposé pour faire disparaître le corps. Un récit presque banal, somme toute. L'histoire d'un homme normal, calme, posé, victime d'un coup de sang tragique qui a mené à la mort, sans intention de la donner. Mais le rapport psychiatrique dit tout le contraire. Il dépeint Selim comme étant dominateur, possessif, autoritaire, manipulateur, intelligent et opportuniste. Sous son apparence très calme, il y a la violence. Si c'est bien lui qui a tué et dépecé, il doit être considéré comme entièrement responsable. Parce que Selim n'est pas un impulsif, mais un être agressif et sadique dans lequel couve une rage froide. S'il s'est acharné avec un couteau et une scie électrique pendant plusieurs heures, ce n'était pas pour faire disparaître le corps, mais pour l'annihiler, entièrement, méthodiquement. Sa femme devait lui être assujettie au-delà de la mort. Les enfants du couple, eux, ont été placés dans un foyer. La médiatisation de l'affaire ne leur a pas épargné les détails. Ils souffrent. Ils sont révoltés, explique une éducatrice. Leur avocate déclare « La seule image qu'il leur reste de leur mère, c'est celle d'un sac poubelle. » D'ailleurs, pendant le procès, celle qui défend les enfants a demandé aux journalistes de ne pas publier les détails morbides du crime. J'en ai parlé en 2018 avec la chroniqueuse judiciaire du temps Fatima Ntsour, c'était dans l'émission de la RTS Médialogue.
C'est vrai que l'avocate des enfants du couple, évidemment, qui était petit, était venue nous demander de ne pas raconter, si vous voulez, le modus operandi qui avait suivi le crime, c'est-à-dire le découpage en 538 morceaux. On avait assez vite compris que c'était tout à fait impossible de passer sous silence cet élément parce que, voilà, quoi, il faisait vraiment partie du dossier pénal, partie de la personnalité de cet accusé, enfin de son acharnement, des débats. C'était entré dans les annales judiciaires de la médecine légale mondiale. Vous voyez, c'était juste impossible.
C'est avec une lettre du fils de l'accusé que le ministère public débute son réquisitoire. « Je sais que tu as tué maman. Pourquoi ?» a écrit l'enfant. Le représentant du parquet, Christian Coco, déclare « Cet homme a tué leur enfance, dépecé leurs espoirs, leur fraîcheur et leur joie de vivre. » Il enchaîne en racontant l'évolution de cette haine sourde qui a conduit celui qu'il qualifie de mari écarisseur à réduire son épouse en confetti humain. Il y avait l'argent aussi, plus de 80 000 francs amassés par Selim grâce au trafic de drogue. Il les avait placés sur un compte en banque au nom de sa femme à Istanbul et il craignait de tout perdre en cas de divorce. L'orgueil de l'assassin encore, qui se vante d'avoir tué sa femme. Le procureur balaie l'hypothèse de l'accident et celle de l'inconnu sorti de nulle part qui propose de nettoyer la scène de crime. Pour lui, c'est sûr, Selim a tué sa femme le jeudi en fin de journée et il est revenu le lendemain pour effectuer sa sinistre besogne avant de s'enfuir. Le procureur demande la prison à perpétuité pour cet homme qui ne respecte ni la vie ni la mort et qui considérait que l'existence de sa femme ne valait pas plus que celle d'une chèvre au fin fond de l'Anatolie. De son côté, l'avocat de Selim admet que son client peut être tenu pour responsable de la mort accidentelle d'Anna. Mais ce n'est pas lui qui a découpé le corps, c'est quelqu'un d'autre, ce fameux Mohamed, rencontré dans un bistrot. Autre argument avancé par la défense pour alléger les charges qui pèsent contre l'accusé, ce n'est pas l'argent qui est à l'origine du crime, mais la culture particulière de Selim. Lorsqu'il s'agit d'honneur, on agit différemment, plaide l'avocat Jean-Marie Créta. Il exhibe devant la cour des coupures de presse turques qui font état de règlements de comptes claniques au Kurdistan, des faits divers qui sont en fait des condamnations à mort de ces femmes adultères. Le défenseur explique que Selim n'avait pas le choix. Il devait suivre ses propres règles de justice. Quand on tue pour l'honneur, c'est moins grave ?
Les chefs de mon clan et tout le monde me disaient « Il faut que tu trouves ta sœur et son ravisseur et que tu les tues, parce que c'est notre honneur. »
Mon papa, il a dit « Si toi, tu es au Kosovo, je vais te tuer toi et ton fils avec le couteau. »
Mon père est devenu furieux et m'a dit « Comment peux-tu t'opposer à mon ordre ?» Ils m'ont emmenée au sanctuaire pour m'enterrer vivante. C'est la tradition.
Chaque année, selon les statistiques de l'ONU, 5000 femmes sont victimes de crimes d'honneur dans le monde. Aux yeux du clan, l'assassin, un père, un frère, un mari, passe pour un héros. La femme a sali la réputation du clan, l'homme doit donc la tuer pour laver l'honneur familial. La tradition remonte à 17 siècles avant Jésus-Christ. En Suisse, aujourd'hui, des femmes en souffrent et parfois en meurent.
Extrait de l'émission Temps présent, 6 décembre 2012. Quand vient le tour de Selim de s'exprimer, il dit « Je suis un travailleur. Je ne fréquente ni les bars, ni les discothèques. » La réponse de la présidente de la cour d'assises fuse. « On ne vous accuse pas d'être un paresseux, mais d'avoir tué et découpé votre femme en 538 morceaux. » Le prévenu raconte que sa femme avait oublié leur tradition, qu'elle voulait l'écarter pour rester libre. Alors, quand il l'a surprise avec un homme à la maison, il l'a poussée pour qu'elle ne le suive pas. Elle est tombée dans l'escalier et s'est tuée. Quand il a constaté la mort, il a amené le cadavre sur le lit. Et après ? Après, je suis sorti pour réfléchir, dit-il. C'est là qu'il a rencontré cet Algérien, Mohamed, qui s'est proposé pour faire disparaître le corps. Selim n'aurait appris le dépeçage que plus tard, en lisant les journaux, durant sa cavale. L'homme assure qu'il ne ment pas parce qu'il a peur de Dieu. Le jury se retire pour délibérer. Coupable, le verdict est clair. En tuant et en découpant sa femme en 538 morceaux, Selim s'est rendu coupable d'un assassinat sans circonstances atténuantes. Il est totalement responsable, coupable aussi d'atteinte à la paix des morts. Le jury souligne l'acharnement particulier, entre 4 et 8 heures, pour découper le cadavre. Il souligne aussi la haine profonde dont a fait preuve le condamné en infligeant à sa femme un châtiment définitif. Mais, au moment d'établir la peine, le tribunal retient tout de même un des arguments de la défense. Un seul argument, mais pas des moindres, celui du crime d'honneur. « Si odieux soit le crime, explique la présidente du tribunal et le jury dans leur arrêt, si insoutenables soient les faits, si inexistant soit le repentir et les regrets, si grande soit la froideur affective de l'assassin, il faut tenir compte de la culture de Selim, de ses origines kurdes. Son geste n'était pas purement gratuit, dit le jugement qui précise qu'il est aussi la conséquence d'une situation de couple mal vécue. La sentence peut être allégée selon la justice. La condamnation est donc la suivante. 18 ans de prison ferme, auquel s'ajoute le solde de 3 ans de la condamnation pour trafic de drogue. Une peine assortie d'une expulsion à vie du territoire suisse. Le condamné devra encore verser plusieurs centaines de milliers de francs à ses enfants en guise de dédommagement. Selim quitte le tribunal avec le même petit rictus, celui qu'il a affiché tout au long de ces 3 jours de procès. Françoise Arbex, bonjour.
Bonjour monsieur.
Françoise Arbex, vous êtes avocate aujourd'hui à la retraite. Vous étiez longtemps avocate d'enfants au barreau de Genève. Oui. D'ailleurs, à l'époque du procès de cette sombre affaire du crime d'Aunay, c'est vous qui avez défendu les intérêts des enfants de ce couple devant la justice. Oui. Quel souvenir gardez-vous de cette affaire, de ce procès en 1999?
Écoutez, ce serait impossible de ne pas s'en souvenir. C'est une affaire qui était vraiment abominable et difficile. Difficile parce que les enfants étaient très petits. Ils avaient, je crois, 4 et 6 ans. Je ne me souviens pas exactement, mais enfin, c'était cet ordre de grandeur. Leur mère avait été tuée par son mari. Et il y avait des... Elle a été découpée, je peux dire, en 538 morceaux. Et les enfants ont été à ce moment-là placés dans une institution, dans un autre canton que le canton de Genève, pour être sûr de ne pas rencontrer des amis de la famille ou de la famille même. Je ne sais pas très bien comment ça s'est passé. C'était pas des enfants difficiles, mais voilà, c'était moi je devais m'occuper des affaires ici. J'avais accès au dossier. Je plaidais. J'avais la possibilité aussi de rencontrer les enfants, les services sociaux, la police, la pédiatrie. Et c'était une mission à part entière.
Oui. Françoise Arbex, quand le crime a lieu, les enfants sont jeunes, hein, vous l'avez dit, ils ont moins de 10 ans. Au procès, ils sont un peu plus âgés. Oui. Mais comment est-ce qu'ils entrent en contact avec une avocate du barreau de Genève? Comment est-ce que vous devenez, Françoise Arbex, l'avocate de ces deux enfants?
Alors, c'est le tribunal tutélaire. Enfin, ça s'appelait comme ça à l'époque. Maintenant, ça s'appelle le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, qui a connaissance de cette affaire par les services sociaux, qui ont été eux-mêmes avertis par la police. Et le tribunal avait la compétence de nommer un avocat pour défendre les intérêts des enfants. Et donc j'avais cette mission par l'intermédiaire d'une décision judiciaire du tribunal tutélaire.
Et donc, vous vous retrouvez avocate de ces deux enfants.
Oui, oui.
Forcément, ils sont bouleversés. Qu'est-ce qui se passe? Vous les auditionnez avec des agents de police, avec quelqu'un d'autre? Comment se passe le suivi d'un dossier tel que celui-là?
Alors, c'était les services sociaux qui avaient le rôle le plus délicat et le plus difficile. Parce que c'est eux qui voyaient les enfants, c'est eux qui voyaient les institutions, c'est eux qui discutaient à l'époque avec la police. Et avec la pédiatrie, éventuellement. Mais j'avais un rôle, à l'époque, assez subalterne, au tout début de l'affaire. Ensuite, je me suis beaucoup entretenue avec les services sociaux. Et les services sociaux m'avaient, à l'époque aussi, pas beaucoup encouragée à les voir parce qu'ils étaient en train de s'apaiser et que ça pouvait raviver des choses trop difficiles parce qu'eux, ils ne savaient rien. Ils savaient que leur mère était morte. C'est tout. Mais évidemment que l'abomination de l'affaire, ils n'en ont pas eu connaissance quand ils étaient petits.
Que sont devenus ces enfants aujourd'hui? Est-ce que vous savez, Françoise Arbex, comment se passe leur vie d'adulte?
Non.
Pas de nouvelles?
Non.
Parce que le père a été condamné à leur verser une indemnité par le tribunal. Ils ne l'ont jamais vu.
Excusez-moi, ça me fait rire, mais parce que c'est impossible. Donc moi je ne sais plus du tout où il est, ce monsieur. Il a été condamné en 1999. Il a été condamné à la réclusion pour 18 ans et l'expulsion à vie de Suisse. Donc, je n'ai plus eu de nouvelles de ce monsieur. Maintenant, pour les nouvelles des enfants, je ne tiens pas à m'exprimer ici.
Françoise Arbex, dans quel cas un enfant, des enfants, ont besoin d'être représentés par un avocat, une avocate devant les tribunaux?
Alors, dans toutes les questions de violence, quelles qu'elles soient, si c'est les parents, si c'est le voisin, si c'est l'animateur de colonies de vacances, enfin...
Donc, qui a commis des violences sur les enfants, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Les violences psychologiques, c'est beaucoup plus difficile parce que pas de preuves, pas de droits, donc ça c'est très très compliqué.
Alors il y a ce cas qui paraît évident, les enfants sont les victimes directes d'une agression violente, mais en l'occurrence, dans le cas de celui qu'on a appelé le dépeceur d'Aunay, il n'y avait pas eu de violence directe envers les enfants.
Ils ont perdu leur mère,
oui,
dans des circonstances terribles, c'est indigne. parce que votre mère est décédée d'un cancer, c'est horriblement triste, mais votre mère s'est fait découper, c'est insupportable. Comment est-ce qu'il peut dire ça à qui que ce soit, l'enfant ?
En fait, les enfants doivent être partie civile. C'est comme ça qu'on dit en langage juridique.
C'est ça.
Alors expliquez-nous un peu cette notion de partie civile pour des enfants.
Alors, c'était moi la partie civile, n'est-ce pas ? Je me constituais pour les enfants, mais comme j'aurais pu me constituer pour un adulte. Mais il est partie intégrante, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes partie justement dans un procès, vous avez accès à tout. À la procédure écrite, aux enquêtes, à l'instruction. Vous êtes convoqué partout. Vous pouvez aller à l'hôpital, vous pouvez consulter les dossiers, vous pouvez discuter avec les policiers, vous êtes une personne entière. Mais vous représentez vous, au lieu de représenter monsieur ou madame, vous représentez l'enfant. Vous pouvez représenter l'enfant aussi dans les divorces horriblement conflictuels, ou très conflictuels, disons, pour tout ce qui touche les droits parentaux, c'est-à-dire les parents se battent pour avoir l'autorité parentale ou la garde, ou veulent supprimer un droit de visite. Et là, l'avocat représente l'enfant. Ça, c'est du droit civil.
Françoise Arbex, si par hasard, les enfants de ce couple donnaient entendre ce podcast, quel message vous aimeriez leur faire passer 30 ans après les faits ?
Alors, ils savent que je pense à eux. Et puis, surtout, ce qui est très important, qu'ils doivent entendre, c'est que quand j'ai pris ma retraite, il y a 12 ans, j'ai demandé à mes collègues, les collègues qui partageaient mon étude, que si ces enfants se manifestaient à l'étude en me cherchant, parce qu'ils connaissaient mon adresse à l'époque, eh bien, qu'elles me contactent. Que mes collègues puissent dire à ces enfants que je les contacterai.
Mais ça ne s'est pas passé ?
Non.
Vous le regrettez ?
Ça peut se faire, ça peut encore arriver.
Pourquoi c'est important pour vous qu'ils puissent vous retrouver ?
C'est important pour moi parce que c'est moi qui les ai défendus, c'est moi qui étais eux. S'ils veulent savoir quoi que ce soit sur ce procès, moi je peux les renseigner sur le procès, sur la procédure, parce que j'étais là à toutes les audiences d'enquête, donc leur dire comment ça s'est passé. Voilà, le minimum, quoi.
Dix-huit ans de prison. C'est la peine la plus élevée jamais prononcée par la juge Antoinette Stadler de toute sa carrière. Elle dira après le procès qu'elle avait été frappée par cet homme avec qui il était impossible de dialoguer. Et de rajouter, il n'était pas comme un mur, plutôt comme du vent. Châtier au-delà de la mort. C'était l'épisode 8 de Crime Suisse, un podcast de la RTS produit par Grégoire Moll et réalisé par David Golan. Musique originale, René-Jeanne Acquaviva. Documentation, Jérôme Ruffini. Attaché de production, Valérie Dantan. Rédaction et narration, c'est moi, Antoine Drou. J'aimerais aussi rendre hommage ici à Arnaud Béda, journaliste, grand reporter, mort le 20 juillet 2023, il y a bientôt une année. C'est lui qui a signé dans l'Illustré l'un des principaux articles de presse sur lesquels je me suis appuyé pour ce récit sur le dépeceur d'Aunay. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Crime Suisse. Je vous raconterai un assassinat qui s'est déroulé en 1954 aux alentours du lac de Tannay, en Valais.